ce dimanche du bon pasteur, l'Église nous fait donc prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Il était souvent de tradition que ce jour-là, ce dimanche, on invite le supérieur du séminaire à venir prêcher et qu'il vienne essayer de remplir son séminaire par une homélie bien sentie. Je vous ai passé souvent pour un recruteur plus qu'autre chose. Moyennant quoi, les trois quarts de l'Assemblée, dès les premiers mots de l'homélie, fermaient les oreilles et se taisaient, enfin s'endormaient même en attendant la fin, considérant que cela ne les concernait pas. Moi, je ne viens pas recruter et je ne suis pas supérieur du séminaire. Je pense qu'il est plutôt préférable de vous poser simplement trois questions. Non seulement aux jeunes qui, parmi nous, sont en train de construire leur vie et de se poser donc la question de ce qu'ils vont faire de leur vie, mais aussi à leurs parents, à leurs grands-parents et à tous ceux qui peuvent les approcher, qui pourront peut-être leur poser ces mêmes questions. La première question est celle du don de sa vie. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? D'une façon ou d'une autre, quelle que soit ta vocation. La question fondamentale, c'est est-ce que tu as compris que ta vie est faite pour être donnée? Est-ce que tu es prêt, quand tu envisages la façon dont tu vas mener ta vie, est-ce que tu es prêt à la vivre pour plus grand que toi? Jésus le dit dans l'Évangile, celui qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Et celui qui accepte de la perdre, c'est-à-dire de la donner, la gagnera. Et je crois que c'est la question fondamentale. Qu'est-ce qui mérite que tu donnes ta vie? Qu'est-ce qui mérite à tes yeux que tu donnes ta vie? Est-ce que tu es d'accord profondément pour vivre ta vie, non pas pour toi, mais pour les autres, pour plus grand que toi? Cette question est à la racine de toute vocation. Car le point commun de toute vocation, de toute vie chrétienne, quel que soit l'état de vie, c'est de donner sa vie. C'est qu'on a compris qu'une vie est féconde, une vie porte du fruit. Même la vie, même la plus fragile, une vie portera du fruit dès lors qu'elle est donnée. Et cette question vaut pour tous ceux qui sont déjà engagés. Est-ce que nous témoignons par notre façon de vivre, notre sacerdoce, notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie chrétienne, notre vie personnelle, est-ce que nous témoignons aux plus jeunes de la joie qu'il y a à donner sa vie? Parce que c'est ça qui va porter du fruit. Moi, j'ai eu l'envie d'être prêtre au contact d'un prêtre qui m'a montré la joie du don de sa vie. C'est en voyant des parents se donner, c'est en voyant tel ou tel dans son métier se donner, c'est en voyant des consacrés heureux de se donner que nous comprenons, que les plus jeunes comprennent la joie qu'il y a à se donner. Ce témoignage, tous ceux qui sont déjà engagés ont à le porter. Et si nous essayons de persévérer avec fidélité dans le don de notre vie, là où il est parfois tentant de se reprendre, c'est pour ceux qui nous gardent aussi. C'est ainsi qu'on éduque à la joie du don. La deuxième question, c'est est-ce que tu crois? que ce monde a besoin d'être sauvé. Il me semble qu'on perd la conscience de ce que vous, de la grandeur, de la beauté, de la vie consacrée ou du sacerdoce, parce qu'on perd la conscience que ce monde a besoin d'être sauvé. Jésus a sauvé ce monde le vendredi saint et le matin de Pâques. Ce salut est acquis par le sang de Jésus. Mais maintenant, cette grâce de salut a besoin d'être distribuée et accueillie. Un homme ou une femme donne sa vie à Dieu, consacre sa vie, parce qu'il accomplit ça. Parce qu'il, non pas parce qu'il veut sauver lui-même, le prêtre ne sauve personne par lui-même, Jésus seul sauve, mais parce qu'il veut se mettre au service de l'accueil de cette grâce du salut par tous. Il veut qu'aucun d'entre nous ne passe à côté de ce salut. Et cela vaut qu'on donne sa vie. Si je n'ai pas compris l'enjeu du salut, alors je ne comprends pas qu'un jeune homme, qu'une jeune femme puisse renoncer à tant de choses pour tout donner. Je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais une de mes amies au lycée avait deux qualités. Elle était brillante intellectuellement et très mignonne. Il y en a qui cumulent. Elle a fait une prépa, elle a réussi sa prépa, et au jour des résultats, elle est venue voir ses parents dans cette bonne ville de Versailles en leur disant: j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai tout réussi, les mines, les ponts, le central et compagnie. La deuxième, c'est que j'ai tout démissionné parce que je rentre au couvent. Et la réaction dans beaucoup de bonnes familles, comme on dit, c'était de dire: quel gâchis! Quel gâchis! Elle avait tout pour elle. C'est très pénible pour nous, sous-entend que le bon Dieu prend juste les restes. Non! Mais ça veut surtout dire qu'on n'a pas la foi, y compris dans beaucoup de bonnes familles, entre guillemets. Parce qu'effectivement, aux yeux du monde, c'est un gâchis. Cette vie ne produira rien de monnayable, de quantifiable humainement, de mesurable aux yeux du monde. Mais si vraiment il s'agit de sauver ce monde, alors, y a-t-il une plus grande cause à servir? Et que cette jeune femme mette ses talents et sa vie pour que le monde ait la vie en abondance, comme dit Jésus. Ce n'est pas un gâchis, c'est une réussite. Sa vie est réussie parce qu'elle est donnée. Elle ne pouvait pas mieux réussir sa vie. Elle ne pouvait pas trouver une cause plus grande que celle-là à servir. Est-ce que nous croyons aussi? C'est une question tout autant pour les parents. Combien de parents seraient sécurisés s'ils savaient que leurs enfants prendraient une voie commune, normale, sans originalité, parce que au moins on sait ce que ça va donner sa vie. Mais quand un jeune dit: je quitte toutes ces sécurités aux yeux du monde, tous ces critères de réussite mondains, donner ma vie à une cause que le monde ne comprendra pas et que seule la foi permet de percevoir la beauté. Pas facile pour des parents d'entrer dans la confiance et de poser cet acte de foi. Et puis enfin, troisième question: est-ce que tu es prêt? Ça veut dire: est-ce que tu es libre? Je ne supporte pas les prêtres qui jouent aux recruteurs. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des communautés qui m'ont perdu le jour où elles ont essayé de jouer ça avec moi. Mais, au contraire, il s'agit de vous aider les uns les autres à être vraiment libres. C'est-à-dire à vous demander si vous Vous êtes capable, si vous prenez les moyens d'un libre discernement, si votre cœur est vraiment disponible, pourquoi tant et tant ont peur? Si on a peur, c'est qu'on n'est pas libre. Si on dit « Ah non, moi, tout sauf curé », c'est qu'on n'est pas libre. Je voudrais que si vous vous mariez un jour, vous le fassiez parce que vous savez que c'est votre vocation et que vous avez moyennement discerné. Et c'est ça qui vous mettra dans la paix. Je suis là, Dieu me voulait. Et non pas parce que j'ai peur de penser à autre chose. Est-ce qu'on est disponible? Posons-nous vraiment la question. Qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que je crois vraiment que Dieu veut mon bonheur? Si oui, de quoi j'ai peur? Ça n'empêche pas d'avoir des grands désirs, d'avoir de tel ou tel projet professionnel. Bien sûr, on peut être amoureux pour tout ça. Mais si vraiment tu es en amitié avec Dieu, comment peux-tu penser un seul instant que Dieu vienne contrecarrer ce pourquoi tu es profondément fait? Si tu es en amitié avec Dieu, tes grands désirs, les grands désirs de Dieu se rejoindront. Ne t'inquiète pas. Personne ne rentre au couvent, au monastère ou au séminaire, malgré lui, sans être heureux. Donc n'aie pas peur de laisser Dieu te dire ce qu'il a comme projet de bonheur pour toi. Et c'est pareil pour les parents. Êtes-vous prêt, êtes-vous libre vis-à-vis de vos enfants? Forcément, quand on est parents ou grands-parents, on se projette sur ses enfants, sur ses petits-enfants. C'est normal, c'est légitime. On verrait bien celui-là faire ci, celui-là faire ça. Ah, moi j'ai qu'un fils alors. Vraiment, il faut... j'ai qu'une fille. Prends mes fils, mais pas ma fille, j'en ai qu'une. Est-ce qu'on est libre? Posez-vous la question. Et pas simplement pour celui dont vous ne savez pas quoi faire. Pour tous, est-ce que je suis? Ensuite, je laisse le bon Dieu se débrouiller. Un cœur disponible, Dieu saura se révéler. Il n'y a pas à se prendre la tête, à se servir de vos cerveaux. Rassurez-vous. Voyez. Mais est-ce qu'on est libre? Je vous propose un petit exercice, tout simple. Tout à l'heure, Jésus va se rendre présent dans l'Eucharistie. Le prêtre va élever Jésus entre ses mains. Il va vous montrer Jésus. Que tous ceux qui sont parents parmi vous puissent, pendant ces quelques instants, prendre le temps de dire à Jésus, je te donne à tel, à tel. Peut-être des prénoms de vos enfants. Je prendrai le temps si vous êtes devant 10. Est-ce que vous êtes capable de lui dire ça? Je te donne, mon enfant. Tu en feras ce que tu voudras, tu l'appelleras ce que tu voudras. Ma vocation de parent, c'est d'être au service de la vocation, mon enfant. Est-ce que je suis capable de le faire sans réticence et sans crainte? C'est un très bon exercice. Et pour les plus jeunes, est-ce que je suis capable, au moment où je vois Jésus en face de moi, de lui dire oui par avance. De lui dire juste ça. Seigneur, je ne sais peut-être pas encore, et dès maintenant, je te dis oui. Posez-vous la question, pourquoi c'est dur de dire ça? Pourquoi tu as peur de lui faire un chèque en blanc? Moi, je peux vous dire une seule chose. C'est qu'on ne regrette jamais d'avoir dit oui, d'avoir fait confiance. Comme prêtre, je l'imagine, comme époux, comme parent. Dès lors qu'une vie est donnée, elle n'est pas tranquille, elle n'est pas forcément facile, mais elle est belle, elle est grande et elle est heureuse.